Bonjour et bienvenue dans cet audio guide de la recyclerie maritime. La recyclerie maritime, c'est une mission, contribuer à la protection des écosystèmes du littoral. Cette mission se décline en deux volets. Le premier est sensibiliser par des expositions comme celle-ci, éphémères, des conférences et autres activités dans le lieu culturel, des activités avec les scolaires, mais aussi un podcast. C'est également un deuxième volet, l'action, avec ce lieu dans lequel vous êtes, dans lequel nous collectons le matériel usagé, obsolète, voire endommagé, maritime, nautique, pour faire une boutique de deuxième main, ainsi qu'une boutique de pièces détachées à l'étage, et enfin une boutique d'artisanat de la transformation, vous trouverez notamment toute la partie textile. Enfin, c'est un atelier collaboratif dans lequel vous pouvez venir aussi, vous, lors des sessions collaboratives, pour réparer votre matériel. Vous pouvez bien sûr nous soutenir en devenant membre de l'association ou en payant un prix d'entrée pour cette visite qui est libre, par exemple 10 euros. Bonne visite! Pour cette exposition, j'ai eu la chance d'interroger Michel Germain, membre des Amis du Curune, qui nous raconte l'histoire non seulement de ces objets du Curune et de Jacques-Yves Le Toumelin, mais aussi plein d'anecdotes tout autour. Je vous invite à partager également cette expérience en vous mettant en haut-parleur pour pouvoir être plusieurs à suivre l'exposition. Bonne visite!
Bonjour Michel.
Bonjour Julien.
Comment ça va?
Bien et toi?
Ah ben ça va super bien, je suis trop content qu'on enregistre cet audio guide aujourd'hui pour l'expo Curune.
Moi également, beau temps, donc conditions parfaites.
Exactement, c'est génial. Alors quand on arrive dans le lieu, tout de suite à gauche, pour vous qui nous écoutez, on arrive sur un premier panneau, Michel, que les amis du Curune nous ont prêté et on vous en remercie beaucoup. Ce premier panneau, bon, il décrit évidemment de manière générale ce qu'est le Curune. Mais plutôt que de regarder un panneau, j'ai envie de te demander à toi, c'est quoi le Curune pour toi?
Alors pour expliquer les choses, le Curune c'est à la fois une aventure humaine, c'est un personnage hors du commun qui est Jacques-Yves Le Toumelin et un bateau d'exception. Et puis surtout c'est à travers ce personnage et ce bateau, deux temps, deux histoires différentes. Une première histoire qui est celle de Jacques-Yves Le Toumelin et du projet qu'il a habité pendant longtemps de faire un tour du monde à la voile. Et puis après une deuxième histoire totalement différente, qui est celle de Curune sans Jacques-Yves Le Toumelin, c'est-à-dire de l'instant où Jacques-Yves Le Toumelin, en 1987, l'a vendu pour un franc symbolique à la ville du Croisic. Le bateau vit une autre histoire avec les amis du Curune. Donc il y a bien deux histoires totalement différentes et totalement dissociées.
Alors toi, donc tu es Michel Germain, tu as écrit un livre et tu fais partie des Amis du Curune depuis combien de temps?
Ben, je suis membre des Amis du Curune depuis 5 ou 6 ans maintenant. Et le Curune est une chose qui m'habite depuis plus longtemps que ça, parce que pour résumer les choses, mon père avait l'un des premiers exemplaires de Curune autour du monde, l'ouvrage qu'a écrit Jacques-Yves Le Toumelin en 1953. J'ai toujours vu ce livre dans la bibliothèque de mon père et c'est un des premiers ouvrages qui m'a frappé quand j'étais adolescent et qui m'a donné déjà un avant-goût de la mer. Nous avions une maison en bord de mer dans le Morbihan, j'ai navigué très tôt et cette image de Jacques-Yves Le Toumelin m'a toujours habité.
C'est un livre que tu recommandes pour les ados?
Oui, je le recommande. Pourquoi? Parce que c'est en même temps la découverte du monde par un homme qui sort de la guerre, puisque Curune part en 1949, 4 ans après la guerre. Mais c'est un moment où l'océan en particulier, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, sont la symbolique de la paix retrouvée et tous les navigateurs qui marqueront les décennies suivantes vont parcourir à ce moment-là l'océan. Et Jacques-Yves Le Toumelin lui-même va rencontrer beaucoup de navigateurs.
Le monde s'ouvre après la guerre où il a été fermé. Très intéressant ce contexte historique. Merci de ce premier éclairage.
C'est un premier éclairage, effectivement. Et puis alors je reviens une seconde sur les Amis du Curune.
Bien sûr, bien sûr.
Les Amis du Curune, eux, sont nés en 1986,
oui.
Donc un an avant l'acquisition par la ville du Croisic de Curune. Et l'association a été constituée justement dans la perspective de la cession du bateau par Jacques-Yves Le Toumelin, dans une triple mission, la première qui est d'entretenir et de faire revivre Curune, la deuxième est de le promouvoir dans ses actions et en termes de symbolique de la ville du Croisic, et la troisième action qui était en même temps de promouvoir et de faire perdurer le souvenir d'un grand navigateur.
Excellent. Alors, juste précise aussi aux auditeurs, aujourd'hui, dans la recyclerie maritime, nous accueillons une exposition partielle de tous vos objets et de la mémoire. Une version plus complète est visible dans le local des Amis du Curune, situé dans l'ancienne criée sur le port du Croisic. Et en général, on y trouve d'ailleurs le Curune stationné devant.
Oui, tout à fait, parce que l'articulation de notre action est relativement simple. C'est d'un côté la présence physique pendant les mois d'été et la belle période de Curune le long de la criée du Croisic, et pendant l'hiver, dans un emplacement un peu différent, qui est près de la capitainerie du port de Plaisance, pour être plus abrité. Mais donc, pendant toute la période des beaux jours, du mois de mai grossièrement jusqu'au mois d'octobre, Curune est le long du quai de l'ancienne criée, et sur le quai lui-même se trouve le local des Amis du Curune. Et ce local a été agencé de façon un peu muséographique, pour à la fois mettre en valeur les objets liés à Jacques de Toublain, ceux qui lui ont servi pour sa navigation du tour du monde, et en même temps avec des panneaux explicatifs qui racontent la genèse du bateau, la chronologie des principaux événements, et qui présentent également des spécifications liées au bateau.
Mmh. Petit secret, vous y trouverez également le premier SMS de l'histoire du monde, et je vous laisserai découvrir ce secret, ce sera un petit jeu de piste pour les gens qui nous écoutent. Toi, tu sais de quoi je veux parler.
Exactement, tout à fait. Tout à fait.
En tout cas, merci aux Amis du Curune de nous prêter une petite partie de cette collection. Et amis visiteurs, je vous propose qu'on aille regarder une partie de ces premiers objets qui sont à l'étage de la mezzanine à la recyclerie. Alors, nous montons les escaliers et on vous invite à en faire autant. Attention, ils sont raides. Accrochez-vous bien sur la rampe. On y va doucement. Alors voilà, on a aujourd'hui 7 objets sur cette vitrine. Michel, le premier, ça a l'air assez opaque comme ça, mais je crois savoir que c'est un compas retourné.
C'est un compas inversé. Inversé. Alors pour expliquer les choses, Jacques-Yves Le Toublain a fait un tour du monde dans une configuration classique avec navigation astronomique et avec comme instrument de navigation deux compas. Un compas de route qui se trouvait près de la descente du bateau et qui lui permettait de suivre le cap qu'il avait déterminé à l'avance d'après ses mesures.
Alors, tu fais bien de préciser, moi je le rajoute, pour les non-marins, un compas c'est une boussole, mais quand on est en mer, on appelle ça un compas.
Tout à fait, c'est exactement ça, c'est une boussole, effectivement. Et puis surtout, il y avait un autre instrument qui est présenté ici, qui a une particularité intéressante, c'est un compas inversé, ça veut dire que ce compas ne s'observe pas par au-dessus, comme un compas classique, mais par-dessous. Pourquoi ? Parce que Jacques-Yves Le Toublain l'avait placé au-dessus de sa couchette. Et quand il somnolait ou se reposait, il pouvait d'un seul coup d'œil, sans avoir à se relever, vérifier si le cap était le bon et si le bateau avait défié sa trajectoire. Alors, autre précision importante, pourquoi ? Parce que quand Jacques-Yves Le Toublain a conçu Curune, Curune a été construit, rappelons-le, entre 1946 et 1948, quand le bateau a été construit, Jacques Le Toublain avait, dans sa perspective d'un tour du monde, imaginé un bateau capable de naviguer au vent arrière sous trinquette jumelle, barre à marée. Ça veut dire qu'on mettait sur l'avant du bateau deux voiles, opposées l'une à l'autre, tangonnées, avec donc un espar qui leur permettait d'être déployées. Et cette technique lui avait été inspirée par un ami de son père, qui se trouvait être marin-marie. Et Marin-Marie est le premier navigateur qui, dans les années 30, a fait une traversée de l'Atlantique et a expérimenté cette technologie permettant, sous trinquette jumelle, au vent arrière, de naviguer barre à marée. Ce qui avait l'énorme avantage pour un navigateur de pouvoir se reposer. Dormir, en laissant son bateau naviguer comme il le souhaitait. Précisons, pour remonter une seconde en arrière quand même, c'est que le bateau a été conçu, on en reparlera tout à l'heure, dans une perspective très précise d'être un bateau marchant au portant. C'est pas un bateau de prêt, c'est un bateau qui marche au portant, puisque la majorité de l'itinéraire du tour du monde déterminé par Jacques Le Toublain se faisait au portant.
Alors, excuse-moi, tu sais, je suis toujours là pour les gens qui sont pas tout à fait marins. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première, c'est quand on parle de portant, ça veut dire qu'on a le vent qui vient plutôt de derrière soi,
de l'arrière.
Alors qu'au près, on remonte vers le vent, ce qui est plus compliqué. Et puis surtout, quand tu parles de barre attachée, aujourd'hui, on parle de pilote automatique. Et oui. Évidemment, c'est le moment. À l'époque, ça n'existait pas le pilote automatique, et donc il fallait être tout le temps à la barre. Donc quand on était en solitaire sur un bateau, c'était très compliqué de simplement dormir, manger. Donc là, avoir conçu un bateau qui permet de naviguer barre attachée, et donc on l'imagine bien, ça sous-entend que barre attachée, il va droit. Ouais. Et c'était ça une forme d'innovation déjà à l'époque, d'avoir un bateau conçu et capable d'aller droit barre attachée, et donc capable de faire du solitaire en dormant et en mangeant.
Oui. Alors, soyons quand même précis, Jacques Le Tourneur ne passait pas son temps avec la barre amarrée. Il fallait les conditions optimales de portant pour le faire, devant et arrière. Mais c'était donc dans la définition du projet. Et je crois que Jacques-Yves Le Tourneur a eu la particularité, c'est le troisième Français qui a fait un tour du monde à la voile, rappelons-le pour précision. Le premier a été Alain Gerbaud. Le deuxième a été Louis Bernicot avec Anaïta. Et Louis Bernicot est totalement méconnu aujourd'hui. Et le troisième, c'est Jacques-Yves Le Tourneur avec ce tour du monde du mois de juillet 1949 jusqu'en 1953.
Oui, donc 4 ans, dont on voit les dates détaillées sur un des panneaux qui est dans le local des Amis du Curune, à côté de l'ancienne criée. L'objet numéro 2, c'est un sextant d'époque.
Oui, c'est un sextant. Alors, ça n'est pas celui de Jacques-Yves Le Tourneur que nous n'avons pas. Donc, à ce sujet, on peut rappeler une anecdote qui est la suivante, c'est que Jacques-Yves Le Tourneur avait hérité, lorsqu'il naviguait, du sextant de son père. Son père était officier de la marine marchande, il avait fait une première guerre héroïque dans la marine nationale, et son père avait la particularité d'avoir navigué sur les derniers 3 mâts et 4 mâts à Nantes, donc d'avoir fréquenté les derniers, les ultimes grands voiliers. Et aux yeux de son fils Jacques-Yves Le Tourneur, le fait que son père ait connu cette époque de la marine à voile était pour lui un motif de fierté indicible. Donc Jacques-Yves avait hérité du sextant de son père, et il y a à ce sujet une anecdote qui est la suivante, c'est que avant la construction de Curune, en 1944, Jacques-Yves est parvenu en économisant sur son maigre salaire de marin-pêcheur et de pêcheur à la grande pêche, puisqu'il a fait des campagnes en Méditerranée, avec l'argent qu'il avait gagné, il a construit un premier voilier, plus petit que Curune, qui s'appelait Tonnerre, un voilier de 8,50 m. Mmh. Et avec ce voilier, il projetait de faire le tour du monde, mais malheureusement, ce bateau lui a été volé pendant l'épisode de la poche de Saint-Nazaire, puisque les Allemands occupaient jusqu'à la fin de la guerre ce territoire. Ce bateau lui a été volé, a été jeté à la côte, et son ami, Jeannot Kilgar, qui était un marin pêcheur du Croisic, avait réussi, avant que les Allemands s'emparent du bateau, à récupérer le sextant de son père. Et c'est le sextant de son père qui l'a accompagné pendant tout son tour du monde. Mais malheureusement, ce sextant, nous ne l'avons pas. Je pense qu'il appartient toujours à la famille de Jacques-Yves Le Tourneur, puisque son épouse et ses enfants habitent toujours à Gouenvède, sa propriété de Pimbron.
Alors, pour les non-marins, un sextant est un appareil de mesure d'angle qui permet, à partir de calcul de l'angle du soleil avec l'horizon ou d'un autre astre nocturne, une étoile, et avec des tableaux de calcul très complexes quand même, il faut être mathématicien presque pour utiliser un sextant, ça permet de se positionner quand on est au milieu de l'océan. C'était les seuls, avant le GPS, c'était la seule manière d'avoir sa position.
De manière exacte.
De manière exacte.
Tout à fait. Et là-dessus, précisons autre chose, c'est que Jacques-Yves Le Tourneur a lui-même une formation maritime poussée, puisque, à l'instar de son père, qui était capitaine au long cours, lui est entré à l'école d'hydrographie de Nantes en 1941, donc précisons un peu les choses, c'est que avant 1941, en 1939, Jacques-Yves avait à l'époque 19 ans, Jacques-Yves a voulu présenter le concours d'entrée à l'école navale, mais pour des raisons de guerre, ce concours n'a pas eu lieu, et Jacques-Yves a choisi, après cette insatisfaction, de faire une formation maritime à l'école d'hydrographie de Nantes, où il est entré en 1941. Il habitait une petite chambre dans un immeuble de la rue de Gigan à Nantes, et il a passé la première partie du diplôme de capitaine de long cours. Donc il est breveté capitaine Loncourt, théorie.
D'accord.
Logiquement, s'il avait voulu naviguer, il aurait fallu faire une deuxième partie applicative qu'il n'a pas faite.
Le passeport.
Mais lui, ça ne l'importait pas. Ce qui lui importait, c'était de maîtriser les règles et les principes de navigation. Donc, c'était un marin confirmé. Et c'est comme cela qu'il a appris, justement, à utiliser le sextant.
Excellent. Alors, l'objet numéro 3, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'objet numéro 3 est très symbolique. C'est un feu de navigation. À l'époque, Jacques-Yves Le Thoumelin avait une lampe torche avec quelques piles, mais les piles salies ne duraient pas très longtemps. Et il avait des feux de position au pétrole.
Au pétrole, oui.
Qui permettaient de chaque côté dans les haubans de localiser le bateau et surtout par la position à bâbord et à tribord de ces deux éclairages, de savoir dans quelle angulation arrivait le bateau quand il arrivait vers un bateau.
Donc déjà coloré
à distance.
Vert rouge
allez. Non, pas du tout. À l'époque, c'était la même couleur de chaque côté, mais simplement quand on voyait de manière symétrique les deux éclairages allumés, on savait que le bateau devait droit devant. Lorsqu'on n'en voyait qu'un, on savait qu'il venait latéralement.
Oui, oui.
C'était un peu empirique, mais ça permettait de voir le bateau à distance.
L'objectif, c'est éviter les collisions entre navires.
Tout à fait.
On parle de pétrole, beaucoup de choses marchent au pétrole, puisque quand on arrive à l'objet numéro 4, on arrive sur ce fameux Primus, ce réchaud. Mais ça, c'est l'original.
Oui, exactement. C'est le réchaud sur lequel Jacques-Yves Le Thoumelin a cuisiné pendant les 3 ans de son tour du monde. Alors, c'est un réchaud à cardan, ce qui veut dire que le brûleur est tout à fait positionné de façon horizontale, quelle que soit la gîte du bateau. Le cardan permet de compenser la gîte au fur et à mesure. Et le principe est un peu empirique, mais marche très bien. Vous avez un réservoir dans lequel on met du pétrole, et puis l'agitation par les mouvements de la mer de ce pétrole dégage des vapeurs. Il y a une petite pompe qui se trouve sur le réservoir, et en pompant sur la pompe, on crée une sorte de gaz que l'on enflamme et qui permet, par combustion, de chauffer les aliments que l'on prépare. Alors, c'est assez émouvant comme appareil, puisqu'il faut se dire que pendant 3 ans, ça a été le lien permanent de Jacques-Yves Le Thoumelin avec la cuisine qu'il faisait à bord.
Oui, et la vie, hein, sans cuisiner, on mange pas. Et puis, quand on est en mer, un peu de chaud, c'est quand même très, très important, le chaud.
Exactement. Et alors, on sait à peu près ce qu'il mangeait. Beaucoup de céréales, des pommes de terre. Le principe, c'est qu'il emportait des vivres frais à l'époque parce qu'il n'avait pas énormément de conserves. Il se nourrissait du poisson qu'il pêchait et qu'il préparait. Poisson à la tahitienne avec, par exemple, du citron et autres pour le faire cuire simplement en termes de
marinage,
en marinade, effectivement. Et puis, il avait surtout le ravitaillement que lui procuraient dans chacune des étapes les personnes qu'il rencontrait. Et à ce sujet, une anecdote qui est assez significative, c'est que dans le livre que j'ai écrit il y a 3 ans maintenant, je raconte que quelque part, Jacques-Yves Le Thoumelin a été pour une part sustenté par ce que j'appelle la diaspora bretonne. Alors, expliquons les choses de manière plus simple, c'est que lorsqu'il arrivait dans une île, bien souvent, les enfants qui jouaient sur la plage disaient « Tiens, un bateau est arrivé », et puis ils montaient à la mission pour dire au missionnaire « Il y a un bateau qui est là ». Et le missionnaire posait des questions sur quel était ce bateau, son origine, et les enfants lui décrivaient un drapeau curieux qui était en fait le drapeau de la croix noire sur fond blanc, qui était en fait le drapeau de l'ancienne amirauté bretonne avant le Gwenadu qui est arrivé beaucoup plus tard. Et donc le missionnaire est informé qu'il y avait en fait un bateau français et un bateau breton qui se trouvaient aux abords de l'île. Et le plus souvent, le missionnaire étant lui-même breton, recevait Jacques-Yves Le Thoumelin. Des liens d'amitié très forts se sont établis entre Jacques-Yves Le Thoumelin et de nombreux missionnaires. Et donc avec eux, il a pu visiter les lieux, établir des liens d'amitié, est également ravitaillé en termes de nourriture, de vivres frais. Et donc, il y a un lien entre ces livres et ce réchaud qui rappelle une histoire révolue.
Excellent. L'objet 5, alors c'est des poulies d'origine du Curune aussi
je pense que oui. Je pense que oui, parce que dans ce local de la recyclerie, ce local a une histoire parce qu'il a hébergé pendant longtemps Curune, avant sa phase de réfection et après. Et on y trouvait également tout un bric-à-brac d'objets cédé par Jacques-Yves Le Thoumelin lorsqu'il a vendu son bateau pour un franc symbolique en 1987, et ce bric-à-brac entreposé là comprenait d'anciennes poulies ou de petits riens ne pouvant pas servir à grand-chose, mais dont certains ont symboliquement vécu le tour du monde. Donc il est très possible que ces poulies aient participé au tour du monde.
Alors, je pense que oui. Pour notre imaginaire, j'en suis ravi. le 6, alors c'est un compas à pointe sèche. Ça sert à calculer les distances sur une carte.
Oui.
D'origine, je crois, là aussi.
Il est d'origine, c'est celui de Jacques-Yves Toumelin. Donc, on peut imaginer que, relevant sur la carte les distances parcourues, il utilisait ce compas à pointe sèche pour mesurer les écarts et projeter en même temps les étapes de la route à venir. Ouais.
Excellent. Et donc le 7, c'est le livre que tu as écrit, un voilier nommé Curune. On peut le trouver en librairie ?
Oui. Alors ce livre est paru en 2021, donc au mois d'octobre, à l'occasion du salon du livre du Croisic qui s'appelle Plume d'équinoxe. Et ce livre a été écrit dans un double objet. Le premier objet, c'était d'avoir fait un constat qui est le suivant, c'est que nous étions en 2021 à un moment où l'on pouvait encore retrouver des témoins ayant connu Jacques-Yves Toumelin. Mmh. Donc il semblait important de capter leurs souvenirs. Alors un exemple très concret pour expliquer les choses, la rencontre de René Billoré, qui travaillait comme apprenti charpentier de marine au chantier Leroux au Croisic, à l'époque de la construction de Curune. Donc il a travaillé sur le bateau lui-même, il a pu de première main raconter les souvenirs très vivaces qu'il avait encore de ce chantier. Donc première chose, c'était de rencontrer les derniers témoins. Et le deuxième objet, qui me semblait la réparation d'une sorte d'injustice, c'est que, en dépit du rôle important exercé par Jacques-Yves Toumelin, il n'y a jamais d'ouvrage expliquant sa vie, la biographie familiale, expliquant également ses rencontres. Et comme Jacques-Yves Toumelin a écrit un livre qui était un véritable best-seller, qui s'appelle « Curune autour du monde », mais qui est un peu un livre de bord et qui n'explique pas toujours le contexte de l'environnement dans lequel le bateau était constitué et Jacques-Yves a navigué, ben je trouvais qu'il était légitime de mettre un peu de contexte, d'explication autour du personnage. Donc le livre, en fait, comprend plusieurs parties. La première rappelle l'histoire de Jacques-Yves Toumelin et la jeunesse de Curune. Et la deuxième partie évoque la vie de Curune depuis qu'il appartient à la ville du Croisic et que les amis du Curune procèdent à son entretien, également à ses navigations. Donc c'est un ouvrage de témoignage et un ouvrage de mémoire, en fait, sur cette page et ce navigateur méconnu.
Bah merci beaucoup pour ces explications de tous les objets de cette vitrine prêtés gracieusement par les amis du Curune et qui, encore une fois, ne sont qu'un extrait de la collection plus vaste, dont la maquette magnifique dans le local des amis du Curune sur le port, dans l'ancienne criée, dans le bâtiment. Il y a des horaires de permanence et d'ouverture cet été
Oui, alors le principe, c'est que nous sommes ouverts tous les samedis de 11h à 13h pendant les mois d'été. Nous sommes également ouverts sur demande quand un groupe veut visiter Curune ou avoir une
expérience. D'accord. Donc les contacts sont visibles sur le premier panneau en bas que l'on a vu en arrivant.
Oui, et on trouve également cette information sur la porte du local même.
Sur la porte du local.
Et sur la porte du local, nous avons également un panneau qui est un calendrier permettant de préciser quelles sont les manifestations nautiques auxquelles Curune va participer pendant les mois d'été. Donc on a le programme de navigation entre du mois de juin jusqu'au mois d'octobre.
Excellent. Alors, merci Michel pour cette deuxième partie. La troisième partie, c'est une expérience multimédia. Donc, il faut continuer sur la mezzanine jusqu'à cet écran de télé, tout simplement. Sur cet écran, on a choisi un certain nombre de vidéos. Il y en a deux que je trouve marquantes. Il y en a une, c'est des archives historiques. Donc, les infos pâtées, l'arrivée, c'est ça ?
Oui, c'est absolument ce document qui est d'une rareté absolue. C'est le petit film de 2 minutes qui présente l'arrivée de Curune au Croisic en 1952, le 7 juillet 1952. Et dans ce film, on voit deux choses particulièrement émouvantes. On voit d'un côté le bateau avec les quelques bateaux venus du Croisic l'accueillir, mais surtout on voit l'instant où Jacques-Yves Le Toumelin serre dans ses bras son père et sa mère venus l'accueillir, et son ami Jeannot Quigard, qui était un marin-pêcheur du Croisic, était venu avec son bateau, l'Indomptable, pour accueillir son ami, et avait transporté à son bord son père et sa mère. Donc Jacques-Yves va rencontrer ses parents avant d'arriver à terre et de subir le déferlement, puisque on raconte, d'après les souvenirs précis, d'après les articles de la presse de l'époque, il y avait près de 20 000 personnes qui attendaient Jacques-Yves Le Toumelin en curune à son arrivée.
Waouh ! L'équivalent de l'arrivée du Vendée Globe aujourd'hui, en fait.
Exactement.
Alors, en dehors de ce film historique pâté, on a également un deuxième reportage fait par Presse Océan qui doit avoir peut-être un peu moins d'une dizaine d'années, c'est ça ?
Oui, exactement. C'est un film qui présente et commenté par Georges Viau lui-même. Georges Viau a été président à deux reprises des Amis du Curune. C'était un président charismatique qui a véritablement donné un influx important et qui a accompagné beaucoup d'équipiers dans leur navigation.
Parfait. Et donc, on est en train de, au moment où on enregistre ce guide audio, on est en train d'envisager un troisième montage avec une remontée de la Loire, le tout sur une piste audio qui raconte une partie de l'histoire du Curune.
Tout à fait. Alors, cette histoire est la suivante, c'est que Curune a été appelé en 2019 à se rendre dans l'étier du Darro, qui est un étier de la Loire situé à Couëron près de Nantes, où se trouve le chantier Fouchard. Et le chantier Fouchard a une particularité, c'est que c'est un chantier très connu dans la mesure où il a refait et restauré un nombre important de bateaux du patrimoine. Si on prend quelques exemples, Marthe Roger de Noirmoutier, Farewell qui se trouve au Pouliguen, d'autres bateaux encore ont été entièrement rénovés par le charpentier de marine Fouchard. Et donc Curune y est allé pour un chantier d'envergure, puisque à cette époque a été refait d'un côté le pont et de l'autre le rouf.
Ouais.
Et profitant de l'occasion, la remontée de la Loire a été l'occasion de séquences de films qui ont été tournées par Jacques Lecanne et par moi-même. Et nous avons fait un film qui restitue l'ambiance de ce voyage aller et de cette descente de Loire en retour.
Excellent. Merci. Donc ça, c'est pour l'expérience multimédia. Je vous propose à vous qui nous écoutez de descendre pour découvrir la suite de cette exposition. La suite de cette exposition, c'est des panneaux explicatifs, ainsi qu'un panneau de photos. Alors attention à l'escalier, il est raide. Si vous avez peur, descendez-le en marche arrière, ça marche très bien aussi. Lorsque vous arrivez en bas, vous pouvez rentrer sous la mezzanine et on va commencer par le panneau qui est à droite. Et ce panneau explique le Curune avec tous les termes clés. Hein, c'est ça, c'est un peu les termes techniques,
oui,
d'une coupe.
Alors, ce document a été fait par un véritable artiste qui s'appelle Jacques Marquet. Jacques Marquet a une particularité. C'est quelqu'un qui a été dans la Marine nationale et qui avait un talent artistique extrêmement développé. Il a notamment reproduit beaucoup de bateaux de la Marine nationale, qui sont des bateaux à moteur et pas des bateaux à voile.
Mmh.
Et dans ce florilège de documents qu'il a reproduit, il a eu un coup de foudre pour Curune, pour s'être rendu un jour au Croisic, et donc il a fait cette planche dans laquelle il a décrit avec beaucoup de précision chacun des éléments constitutifs du bateau. Alors on y voit Curune de profil, donc on voit son gréement à voile aurique. La voile aurique, je rappelle le principe brièvement, c'est une grand voile qui est symétrique en ce sens que vous avez la baume en bas et vous avez une vergue plus courte qui s'appelle la corne en tête, et donc la voile est tendue entre la corne et la baume. Et on voit également à l'avant les voiles d'avant que sont d'un côté la trinquette et de l'autre le foc sur l'avant, avec un bout dehors assez important, puisque Curune mesure 10 mètres de longueur de coque, mais le bout dehors, lui tout seul, fait 2,30 mètres de longueur et permet de décaler beaucoup vers l'avant le foc et permet en même temps au bateau de remonter mieux au près, même si, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un bateau de près, mais un bateau de portant. Alors on y voit également tous les détails du gréement, les points de drisse, la flamme, le feu de mouillage, les trinquettes, le grand mât, la drisse, en fait, ainsi que toutes les précisions portant sur la coque, puisque à l'avant, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un rocambeau. Le rocambeau, c'est la pièce sur laquelle s'articule le foc lorsqu'il est hissé le long du bout dehors avant que la grand voile soit hissée. On voit la sous-barbe qui soutient le bout dehors et qui est tendue de façon à permettre au bout dehors de résister à la traction exercée par le foc. On y voit également aussi les détails de la quille, les formes du bateau, la quille longue qu'il possède. Et puis on y voit donc tous les détails également du gréement de la grand voile en termes de précision. Donc c'est un document intéressant parce qu'il est très pédagogique et il permet de mieux comprendre le bateau dans sa globalité.
Oui, alors énormément de détails. Moi, il y a un détail qui me marque, c'est qu'on est sur des formes différentes des bateaux d'aujourd'hui. On est habitué à des formes avec une quille profonde. Donc tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle une quille longue, c'est ça?
Oui.
On a un plan antidérive qui est tout du long. C'est pas comme on peut faire aujourd'hui avec des dérives qui sont centrales et profondes, qui sont un peu des points de pivot aussi en termes de pilotage. J'imagine que c'est des spécificités importantes à prendre en compte quand on navigue avec le Curune.
Alors, c'est tout à fait intéressant comme remarque, parce que tu as raison, le bateau a des formes qui sont des formes un peu anciennes. Et il faut expliquer qu'à l'époque où Dervin a conçu Curune, il a conçu Curune à la demande expresse de Jacques Le Toumelin, qui avait fait des comparaisons. Ça veut dire que à l'époque, il avait le choix entre deux gréements. Soit ce qu'on appelle un gréement Marconi, qui est un gréement moderne que l'on connaît avec un mât, une grand voile en tête et un foc, et puis ces gréments, ce gréement de Cotre à voile aurique. Et donc, il a, avec un de ses amis qui avait un voilier, fait des comparaisons sur des bords de près, des bords de largue, des bords de vent arrière, pour voir un petit peu les performances comparées d'un voilier ancien par rapport à un voilier récent. Et de cette comparaison effectuée dans différentes sorties en mer, il est ressorti qu'au portant, c'était ce gréement-là qui était le plus performant. Et comme ça conduisait à se rapprocher des allures qu'il utiliserait dans son tour du monde, il a préféré ceci. Alors, ce qui est tout à fait intéressant à rappeler aussi, c'est que la même année où Dervin va définir et dessiner Curune à la demande des spécifications exprimées par Jacques-Yves Le Toumelin, Dervin va dessiner un autre bateau, et cet autre bateau s'appelle Les Quatre Vents. C'est le bateau de Marcel Barbiot, qui fera plusieurs tours du monde, et un personnage tout à fait haut en couleur et aussi méconnu parfois que Jacques-Yves Le Toumelin. Mais Marcel Barbiot, lui, a choisi un gréement Marconi, donc un gréement plus moderne. Et donc, il y avait véritablement à l'époque deux écoles, une école pour ce type de gréement, caractérisé par sa robustesse, ses allures au portant, et puis une école de modernité évoluant vers les gréements Marconi.
Passionnant. Allez, on va passer au panneau suivant, on se décale légèrement sur la gauche, et là on rentre à l'intérieur de Curune, avec la coupe longitudinale.
Oui, alors là, ce document mérite un commentaire, parce que on y voit et on y comprend beaucoup mieux la structure intérieure. Rappelons que quand Jacques-Yves Le Toumelin a passé commande de son voilier auprès de Dervin, il a passé commande d'un voilier capable, par sa robustesse et ses défenses, d'effectuer un tour du monde sans problème majeur, pour un petit bateau, parce que le bateau ne fait que 10 mètres, ce qui n'est pas une taille très importante. Mais surtout, il l'a conçu comme un bateau à vivre. Et dans la commande, il avait également cette arrière-pensée de faire un bateau sur lequel lui vivrait durablement. Alors, cela explique plusieurs choses. C'est que, à l'inverse de ce que laisse croire le bateau quand on le voit de l'extérieur, le volume intérieur est assez important. La hauteur sous barreau, donc la hauteur d'un personnage
debout,
à bord, est de l'ordre de 1m85 à 1m90, ce qui permet de se tenir à l'aise. Jacques-Yves Le Toumelin mesurait plus de 1m80 lui-même, et donc il y avait ce confort de pouvoir se déplacer debout. Et aujourd'hui encore, il nous arrive d'avoir des architectes de marine qui viennent à bord et qui reconnaissent que le bateau de Jacques-Yves Le Toumelin est un modèle d'ergonomie, en ce sens qu'on peut tendre le bras d'un côté et toucher la coque sur le côté bâbord, tendre l'autre bras sur le côté tribord et toucher la coque. Ça veut dire qu'il y a des volumes qui ont été définie et caractérisée de manière extrêmement précise. Donc la structure interne se décompose en trois parties. La partie centrale, à partir de la descente, où on trouve sur tribord la partie cuisine, donc évier avec la pompe qui est la pompe qu'utilisait à l'époque pour pomper de l'eau de mer ou pomper de l'eau douce depuis son réservoir, Jacques-Yves Le Toumelin. Sur l'autre bord, sur bâbord, on va trouver la table à cartes, qui est une table avec cette grande dimension, ce qu'on appelle les cartes grand aigle, d'un grand format, donc il fallait une surface assez importante. Sous cette table, vous avez un grand tiroir longitudinal qui accueillait les cartes utilisées par Jacques-Yves Le Toumelin et différents tiroirs. Et donc, à tribord, la partie cuisine, à bâbord, la table à cartes, et en avant de ces parties-là, vous avez à bâbord et à tribord une couchette d'assez grande taille, puisque la largeur est importante, la longueur de 2 mètres, et ça, ça constitue la cellule centrale. Et puis sur l'avant, vous aviez le poste avant qui servait à tout ce qui était amarrage, mais également voile et voilerie, et le symétrique à l'arrière, qui était la partie servant de cambuse, où on trouvait à la fois les vivres sur des étagères, parce qu'il fallait que les fruits ou les légumes ne pourrissent pas, et puis également des tiroirs. Alors les tiroirs, j'y reviens, parce que René Bioré expliquait que lorsque le bateau était construit, le charpentier Moulet, qui a été responsable de la construction globale, avait reconnu qu'il avait fallu 4 mois à peine pour faire le gros œuvre de la coque, mais qu'il a fallu 1 an et demi pour faire les finitions et les 31 tiroirs. 31 tiroirs ont été imaginés à bord, toujours dans l'esprit d'avoir un bateau à vivre durablement, comme une maison. Et Le Toumelin, qui était quelqu'un d'extrêmement méticuleux et précis, voulait un tiroir par objet ou par type d'objet, avec une organisation extrêmement précise. Ce qui va nous conduire également à notre constat, c'est que Jacques-Yves, en dépit de l'âge, non pas avancé, il avait 29 ans quand il partira pour son tour du monde, va partir avec un équipier que lui imposait sa mère. Alors pourquoi cet équipier a-t-il été imposé ? Ce que peu de personnes savent, c'est que 2 ans avant la naissance de Jacques-Yves Le Toumelin, ses parents ont eu un autre enfant qui a porté les mêmes prénoms que Jacques-Yves exactement, mais qui est mort à 6 mois. Et sans doute en compensation de la perte de ce fils mort prématurément, Madame Le Toumelin a été très vigilante sur la sécurité autour de son fils. Quoi qu'il en soit, quand Jacques-Yves Le Toumelin va partir pour son tour du monde à 29 ans, on lui impose un équipier qui s'appelle Dufour, et les relations seront tellement mauvaises avec cet équipier qu'il le débarquera à Fédala au Maroc. Et de mon interprétation, je pense que c'est ce côté méticuleux de Jacques-Yves Le Toumelin qui le rendait impropre à partager avec quelqu'un une navigation au long cours dans un espace confiné comme ce bateau.
On sait tous aujourd'hui que les expériences de confinement sont compliquées.
Parfois, c'est vrai.
Dernier panneau, alors là on est sur un panneau de photos et je trouve ça assez extraordinaire d'avoir des photos pour il y a des gens importants que tu vas nous présenter.
Oui, alors ces photos sont au nombre de 2, 3, 6, 9, 12 photos. Je vais en commenter quelques-unes. Alors il y a une photo d'abord très émouvante qui est en haut à gauche.
Oui.
C'est une photo sur laquelle on voit Curune avec en avant-plan le bateau de l'ami Jeannot Kilgard, et sur Curune se trouve Jacques-Yves Le Toumelin avec sa mère et son père qui le serrent dans leurs bras. Donc là, c'est la photo des retrouvailles au large du Croisic avant de débarquer. Alors cette photo est tout à fait intéressante parce qu'on voit le bateau dans son état après le tour du monde, on y voit Jacques-Yves Le Toumelin tel qu'il était, et on y voit le visage de sa mère, et quelque part derrière, on devine le béret de son père et les bras de son père sur l'arrière de Jacques-Yves Le Toumelin. À droite, en symétrique, une autre photo qui a une portée importante, puisque c'est une photo sur laquelle Jacques-Yves Le Toumelin est en conversation avec Auguste Bioré, qui était le grand-père de René Bioré, qui a travaillé sur Curune, et qui était le propriétaire du chantier Bioré, bien connu au Croisic, et Auguste Bioré va vendre son chantier à Lucien Leroux, qui recevra la commande de construction de Curune par Jacques-Yves Toumelin en 1946. Et en photo centrale, entre les deux photos que je viens de commenter brièvement, on trouve une photo de Curune voile affalée, avec sur l'arrière-plan et latéralement des bateaux du croisic, des bateaux de pêcheurs en majorité, venus l'accueillir. L'un des bateaux porte un pavois, l'autre porte un grand drapeau français, et donc on voit cet instant précieux de l'arrivée de Curune. Et puis, en partie centrale, une photo verticale où on voit Curune au sec, à marée basse, et on devine la silhouette de Jacques-Yves Le Toumelin avec des pots de peinture en train d'entretenir sa coque avec les détails du croisic de l'époque. Les autres photos, elles, présentent en bas à droite une photo intéressante qui montre la foule du croisic et Jacques-Yves Le Toumelin débarqué. Il est en short, en chemise écossaise, et on voit les regards des personnes qui se portent vers lui, la foule amassée au moment de son arrivée. Donc voici un peu ces photos symboliques qui reflètent un petit peu
l'arrivée. Et qui ne sont encore une fois qu'un extrait d'une collection plus large de photos que l'on peut voir dans le local des Amis du Curune. Donc on l'a dit tout à l'heure, pour continuer l'expérience, hein, permanence le samedi de 11h à 13h. Visite possible sur demande pour des groupes. Les coordonnées sont à l'accueil. Je pense que je vais aller les lire.
Et l'adresse mail avant tout, qui permet d'avoir un contact et de pouvoir exprimer ses desiderata.
Exactement. Donc si vous voulez contacter les Amis du Curune, n'hésitez pas à leur envoyer un email. L'email étant curunecroisic@gmail.com, je l'appelle K-U-R-U-N, croisic, C-R-O-I-S-I-C, @gmail.com. Quel moment passé ensemble, merci pour toutes ces anecdotes.
Ça fait un plaisir.
C'est passionnant, passionné aussi, je pense, et les deux vont souvent de pair. Donc merci encore Michel, merci aux Amis du Curune de nous prêter un petit bout de cette histoire du patrimoine maritime croisiquet. À bientôt.
À bientôt.
Ce guide audio est désormais terminé. Vous pouvez bien sûr continuer votre visite dans la recyclerie maritime, que ce soit la boutique ou simplement la buvette. N'hésitez pas à nous soutenir et, si ça vous a plu, à partager votre expérience sur les réseaux sociaux, mais aussi en bouche à oreille à vos amis. Merci beaucoup et à bientôt.